Bonjour, bonjour, je m'appelle Amy-Gail Gagné et vous êtes dans mon garde-robe. Ou à l'extérieur de mon garde-robe, on ne sait pas trop. On est déjà rendu au troisième épisode du podcast. Moi qui croyais que cette idée-là allait toujours rester dans ma tête, je suis très heureuse de voir que non, ça existe, ça se manifeste. Et même, ça fait des petits dans le sens où j'ai déjà reçu des beaux commentaires de gens, de mon entourage, de ma communauté qui me suivent par Facebook. Et oui, le dernier épisode portait sur la numérologie et j'avoue avoir hésité, surtout parce que je trouvais ça long. J'avais envie d'en parler, mais j'ai décidé de faire une petite introduction à la numérologie en parlant des 9 chiffres principaux et du cycle de 9 ans, dans le fond, qu'on va rencontrer en numérologie tout au long de notre vie. Et ben c'est ça, j'essayais de faire ça rapidement, et en même temps, je voulais quand même donner des informations, je voulais pas que ce soit trop monotone parce que je lisais les informations. Alors, quand j'ai terminé l'épisode, j'étais vraiment, vraiment pas certaine, mais bon, je m'étais dit que je voulais le faire. Alors, je l'ai fait, je l'ai lancé, et ben il y a des gens qui l'ont écouté au complet! Alors, juste ça, pour moi, c'est un succès. Oui, j'ai eu des beaux commentaires, j'ai même eu des questions par rapport à la numérologie, puis des gens qui m'ont dit qu'ils étaient contents d'en avoir appris plus et qui sont allés voir leur chemin de vie et leur année personnelle. Il y en a qui trouvaient que ça faisait bien du sens. Donc, je suis contente. Finalement, ça n'a pas été l'échec cuisant que je m'imaginais. Alors, au menu pour ce nouvel épisode, j'ai envie de définir encore plus avec vous c'est quoi ce fameux garde-robe, parce que je me suis rendu compte qu'il y a comme une deuxième porte, c'est comme s'il y avait un double fond caché. Et puis aujourd'hui, on dirait qu'il est en train de se révéler à moi et j'avais envie de vous en parler. Donc c'est un épisode qui risque d'être assez personnel et aussi je souhaite, en même temps j'espère, que vous allez y trouver quelque chose pour vous. Aussi, en plus, je souhaite vous parler de mes lectures actuelles. Donc, les lectures que j'ai faites dans la dernière semaine, les gros coups de cœur que j'ai eus, des mini-illuminations, ou comme on appelle en anglais, des ha-ha moments, donc des moments où on fait « Oh! OK! » Je pense que je viens de décliquer dans ma tête. Donc, il y a ça dont je vais vous parler. Et en premier lieu, en fait, je vais vous parler d'un petit défi que j'ai décidé de me lancer avec la nouvelle année, avec le désir d'évoluer, de changer certaines habitudes. Alors, je vais vous raconter ça. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vous ai parlé dans mon deuxième épisode, dans mon dernier, que j'avais un trouble alimentaire. Et bon, c'est plus quelque chose qui me dérange trop de parler. J'ai commencé à en parler au printemps 2017. Donc, ça fait quand même quelques temps et ça m'a permis, comme je disais, de connecter avec des gens qui en ont aussi, puis de dédramatiser ça et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Il y a quand même une petite quantité de femmes avec qui j'ai eu des échanges sur le sujet. Donc, ça m'a aidé aussi moi-même de me retrouver avec d'autres gens qui vivent la même chose. Alors, suite à ça, en fait, j'ai eu envie d'arriver une fois pour toutes à couper beaucoup ma consommation de sucre. Je l'ai déjà fait dans le passé, j'ai déjà passé des bonnes périodes sans manger de sucre et je dois dire que c'était les périodes où j'étais le plus en santé mentale et physique. Donc, je sentais que j'avais une plus grande vitalité parce que je dépendais pas de ce carburant-là pour fonctionner. Un peu comme le café, on sait que si on en prend plusieurs fois par jour, ben à partir d'un certain espace de temps dans la journée, notre corps en manque. Donc, on a une baisse d'énergie et en fait, j'ai envie d'éviter ça. J'ai aussi envie d'éviter l'espèce d'action de dépendance qui vient avec la consommation pour moi de produits sucrés. Je mets beaucoup mes émotions là-dedans et j'ai envie de devenir beaucoup plus lucide et consciente et d'agir aussi en fonction de comment je me sens dans le sens où je veux arriver à soigner et à dépasser ces états-là qui, à la base, me font pas du tout sentir bien, mais qui derrière ça se cache un besoin et un manque qu'on va souvent combler avec la nourriture. Donc, j'ai essayé beaucoup l'année passée, c'était dans mes objectifs de l'année en 2017, d'arrêter de me gaver de sucre quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, quand je suis anxieuse, quand ça va pas bien. Et ben, j'ai vraiment, mais vraiment pas réussi. À chaque jour, c'est comme si je me faisais moi-même une jambette en me disant, ah, tu veux faire ça? Ben non, ah ouais, donc. Donc, c'est un peu niaiseux puisqu'on va avoir à prendre soin de nous-mêmes toute notre vie et je sais que je suis vraiment pas la seule personne qui est aux prises avec des autosabotages. C'est un mot qui existe et qui devrait être mentionné plus souvent. Peut-être ça nous aiderait à prendre conscience de notre façon d'agir. C'est sûr que c'est difficile juste de l'avouer. On n'a pas envie non plus de se taper sur la tête en se disant qu'on se fait des autosabotages. Presque tout le monde le fait. Les gens qui ont des dépendances à l'alcool, dépendance au jeu, à la drogue, au sexe, ça peut être n'importe quoi. On a tous une façon de fuir, mais la cigarette, tant que ça nous mine pas la vie. Moi, je sais que j'ai envie déjà d'être plus allumée. Le sucre, c'est reconnu aussi comme une espèce de façon de, oui, shutter down, d'éteindre ses émotions. Mais aussi, on dit qu'en fait, le sucre abaisse le taux vibratoire. Donc, on est dans un podcast sur la spiritualité. Et ben en fait c'est ça, la vibration, c'est l'humeur aussi, c'est comment on sent, c'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on attire à nous. Et moi j'ai eu longtemps peur d'être bien. C'est bizarre, hein? Je pense que je suis pas la seule non plus à avoir peut-être eu peur du bonheur. Et ben j'essaie de changer ça. Mais souvent, je me réfugie dans la nourriture pour éteindre un peu mes sentiments, même quand je me sens bien. On dirait que rayonner, ça me fait peur. J'ai peur de ce que ça peut attirer autant de bons que de mauvais, je sais pas. J'ai peur peut-être qu'il y ait trop de regards sur moi. Je préfère me cacher dans un coin, m'éteindre. Et souvent, ma façon de me cacher dans un coin, c'est de rester chez moi et de manger. Donc, c'est ça aussi, les troubles alimentaires, ça vient avec toutes sortes de comportements. Pas évident. Donc, en fait, cette fois-ci, pour arriver à faire différent en 2018 avec cette dépendance-là que j'ai, cette façon de fuir-là, je me suis vraiment engagée. Donc, il y a 2 jours, j'étais sur un groupe de mamans sur Facebook de soutien et en fait, j'ai nommé vraiment le fait que je voulais arrêter de manger du sucre et que j'allais probablement être désagréable dans les prochains jours dans le groupe, que j'allais peut-être passer un peu mes frustrations là, me défouler, pas vraiment être désagréable, mais en profiter pour me défouler. Et ben en fait, j'ai vu que c'est sûr, je m'y attendais, mais j'étais pas la seule et que plusieurs mamans trouvaient ça difficile et on m'a encouragée. On m'a dit qu'il y en a d'autres qui voulaient faire la même chose. Et en fait, à partir de là, ben, ça m'a poussée à faire une vidéo live sur ma page professionnelle qui porte mon nom sur Facebook. Donc, j'ai fait ça. Et ben, ensuite, je me suis dit, bon, quand est-ce que je pars? Donc, ça, c'était il y a 2 jours. Hier, j'ai mangé moins de sucre que la veille, mais j'en ai mangé quand même un peu. Et ben, aujourd'hui, c'était mon défi. Nous sommes le 10 janvier. Je n'ai pas mangé de produits, dans le fond, de sucre ajouté ou rien que du sucre raffiné. Donc, j'ai mangé des fruits. C'est ça, j'ai mangé du riz, j'ai mangé des glucides, bien sûr, mais j'ai rien mangé qui contenait du sucre, j'ai rien mangé qui était considéré comme un dessert à part une orange. Donc, ça va bien. Faut dire que j'ai poussé assez relax aujourd'hui. Je suis allée marcher au soleil, il faisait super beau. J'avais pas des grosses tâches à faire. Mais bon, souvent, c'est drôle, parfois les premiers jours sont les plus difficiles, il y en a qui ont des maux de tête. Et moi, ben c'est le contraire. Souvent, c'est à long terme que c'est plus difficile parce que là, je vais quelque part. Si je vais dans un souper de famille ou avec des amis où il y a un dessert, je vais avoir tendance à vouloir en prendre une bonne part et en reprendre. Et souvent, mais je sens déjà que ma. Comme si mon état de conscience était modifié et que tout devenait plus flou. Donc, je vais être comme moins alerte à l'état des autres, moins intéressée aussi. Puis je vais être plus comme self-conscious, comme on dit. Donc, plus juste à l'intérieur de moi-même, puis un peu pris dans ma tête, dans mes émotions. Ça devient désagréable, ça devient pas très intéressant. Donc, c'était ça ma stratégie. En fait, j'ai pensé au documentaire Fat, Sick and Nearly Dead, où en fait, il y en a deux. Il y a le premier et le deuxième. Et dans le deuxième, le personnage principal du documentaire va voir un ami qui avait déjà perdu beaucoup de poids, qui était considéré, je pense, obèse, qui avait perdu beaucoup de poids, et il va le revoir au bout de quelques mois et il avait repris, en fait, tout le poids qu'il avait perdu. Et les deux, en fait, dans leur discussion, comparaient pourquoi celui qui fait le film a réussi et pourquoi l'autre a échoué, en quelque sorte, ou est retourné à son poids initial. Et, en fait, il voyait que la différence était que celui qui avait repris son poids avait aucune communauté autour de lui. Donc, il n'y avait personne avec qui partager, il n'y avait personne pour l'encourager, pour se sentir soutenu, pour se sentir compris. Donc, en fait, ça m'a allumé quelque chose et je me suis dit, c'est sûr qu'autour de moi, il n'y a personne qui a vraiment une dépendance au sucre, il n'y a personne qui fait de l'hyperphagie, il n'y a personne qui a un trouble alimentaire. Donc, je suis pas mal la seule à avoir un drôle de rapport avec la nourriture par mon entourage. Donc, si je veux réussir à me sortir de ça, oui, j'ai une psychologue et oui, j'en parle avec elle, mais je pense que la communauté, c'est tellement fort. Alors, comme j'avais déjà fait mon vidéo au printemps passé sur mon trouble alimentaire, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je vais me lancer, ça va me faire du bien, je vais être vraie, je vais être transparente, puis, ben c'est ça, en partageant sa vérité, c'est déjà, ça nous fait tellement du bien, puis ça sort tout ça de notre tête aussi. Et, ben, j'ai vu que c'est ça, on n'est pas beaucoup, mais j'ai quand même un petit soutien, il y a des gens qui me suivent, j'ai des petits commentaires, donc c'est déjà agréable, puis je le fais, en fait, pour moi et pour les autres en même temps, c'est drôle à dire, mais parce qu'ils sont là, j'ai envie de continuer, donc j'ai plus envie, à chaque jour, quand je me lève, de faire, bof, ça n'a pas d'importance, pourquoi je fais ça, ça va rien changer. Ben, maintenant, au moins, je le fais un peu en sentant que j'ai un compte à rendre aux autres, sans que ce soit réellement le cas, mais en sentant que, juste en me dévoilant, j'ai déjà peut-être une raison de plus de le faire. Donc, c'est ça, j'étais assez contente. Ben là, c'est ma première vraie journée, ça risque d'être une longue aventure, mais au bout de quelques temps, en fait, au bout de quelques semaines, souvent, on n'a même plus envie de manger du sucre, on se sent super bien, c'est juste si j'en remange, que là, ça peut aller chercher un petit peu en dedans de moi, là, puis me dire « Ah, ben j'en ai mangé un peu, alors pourquoi pas en manger plein? » Puis après ça, tu retombes dedans. Donc, c'est ça. Ça, c'était mon premier sujet. Je sais pas si vous, ça vous arrive d'être pris avec une dépendance. C'est pas obligé d'être au sucre ou d'être un trouble alimentaire. Mais n'hésitez pas à me commenter sur Facebook si vous écoutez le podcast et qu'on est en contact. N'hésitez pas à aller me chercher sur Facebook. Donc, Amy Gayle Gagné sur ma page professionnelle. J'ai aussi ma page de Ethica Veridis. Donc, vous pouvez me trouver à ces deux endroits-là et ça va me faire plaisir de partager avec vous sur le sujet. Puis, en fait, je suis en train de créer un petit groupe de soutien pour vraiment parler de notre rapport à la nourriture et de notre rapport à nos objectifs et à nos changements d'habitude de vie. Pas juste dans le but de go, 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 on perd du poids, mais vraiment juste de se sentir mieux dans sa tête, mieux devant son assiette et mieux dans son corps et devant le miroir. Donc, c'est ça. C'est plus pour se donner confiance et pour sentir qu'on fait ça ensemble. Alors, en deuxième lieu, mon deuxième sujet, c'est au sujet de mon garde-robe. Alors, je vous ai dit, vous êtes dedans, vous êtes dehors, c'est pas clair. Moi non plus, c'est pas clair. J'ai l'impression qu'il y a un double fond. Donc, au départ, en fait, je me suis aperçue que mon besoin de base en commençant le podcast, c'était de parler de tous ces sujets que j'adore, sur lesquels je lis à longueur de journée, auxquels je pense constamment, qui sont liés à la spiritualité. Donc, ça peut être autant le développement personnel, que j'entre dans la spiritualité et que je tiens à préciser parce que je vais en parler beaucoup. Donc, on peut parler autant de comment définir ses priorités, comment fixer ses objectifs, comment faire son horaire de façon à avancer, comment réussir à avancer au travers des années. Donc ça fait partie aussi de notre croissance individuelle et donc spirituelle, puisque pour moi, la spiritualité, c'est d'abord de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qu'on a un but, qu'on a un objectif, qu'on est liés tous ensemble. Et bien, si on doit grandir, ça passe par qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Donc, autant avoir une attitude positive que d'être plus rationnel et de se donner vraiment des moyens pour avancer. Donc, ça, c'est une chose. Et je voulais aussi pouvoir parler, bon, on a toutes les lectures un peu flyées, qui sortent de l'ordinaire, que je fais à chaque jour. et aussi ma passion pour la lithothérapie, pour les thérapies énergétiques, les soins énergétiques dont j'ai parlé, comme le Reiki, et les huiles essentielles, toutes sortes d'autres méthodes qui m'intéressent, la numérologie dont j'ai parlé, l'astrologie aussi, ça me rend curieuse, j'ai un faible pour la numérologie. Mais il y a tout ça, et dans le fond, j'avais envie d'avoir un espace pour pouvoir parler de ça sans retenue. Donc, au fur et à mesure des idées, bon, la physique quantique, j'en ai plein qui arrivent dans ma tête au fur et à mesure. Et c'est ça, c'était l'idée de base, d'avoir un espace pour discuter et ouvrir un dialogue avec les autres, j'espère, parce que sinon, c'est comme si j'étais encore dans ma tête en train de penser à tout ça, et mon but, c'est de faire des contacts aussi. Et d'avoir des entrevues, ça c'est quelque chose que j'aimerais commencer dès février, d'avoir des gens qui travaillent dans le milieu, qui sont aussi intéressés que moi, et de faire des entrevues, d'avoir des échanges, donc d'aller plus loin aussi, et de découvrir des métiers, de découvrir des façons de vivre qui sont totalement ancrées dans une pratique spirituelle. Mais en plus de ça, je me rends compte que dans mon garde-robe, il y a autre chose. Il y a moi, et pas seulement moi par rapport aux idées que j'ai envie d'exprimer, mais moi par rapport à ce que j'ai envie de faire dans la vie. Parce que, bon, comme j'ai dit dans mon premier épisode, je suis à la recherche de ce que je m'en vais faire parce que, ben, je suis artiste, je suis documentariste de formation et je fais de la couture. J'ai une petite entreprise de confection textile éthique qui s'appelle Funambule Tangerine. C'est aussi mon pseudo, si. Vous voulez savoir qui est mon alter ego? Eh bien, elle s'appelle Funambule Tangerine. Je pourrais vous expliquer ça une autre fois. Donc, en fait, j'ai tout ça. Je suis une maman, j'adore écrire. J'ai toujours eu le rêve d'être écrivaine. Et ben, je pousse aussi dans ce sens-là. C'est dans mes objectifs pour cette année et les prochaines années. Alors, c'est ça. Je me disais, c'est quoi moi que je veux faire? Parce que, bon, c'est beau de faire un podcast, mais je veux aller où avec ça? Et dans le fond, dans mon garde-robe, il y a l'idée d'avoir une profession, d'avoir une entreprise qui est en développement personnel, qui travaille, dans le fond, avec la spiritualité. Et oui, de donner des soins Reiki, puisque comme j'ai dit dans le premier épisode, j'ai fait mon initiation au Reiki, donc là, je suis en train d'apprendre à le pratiquer, puisque c'est tout nouveau, c'était le 18 décembre, donc ça fait même pas encore un mois. Donc, il y a le Reiki, il y a le développement personnel, il y a l'entraînement physique, qui est un de mes grands intérêts aussi, mais surtout dans l'idée d'être bien dans sa peau, d'être énergique et de se dépasser. C'est quelque chose de super important pour moi, le dépassement de soi, parce que ça permet de dépasser les propres limites qu'on s'est mis dans notre tête. Donc, après ça, on ouvre plein de choses. Donc, c'est quoi qu'il y a dans mon garde-robe? En fait, il y a le désir profond de vivre de cette passion-là. Donc, d'avoir un revenu à 100% qui soit basé sur tout cet intérêt pour la croissance personnelle, pour la spiritualité, pour le mieux-être, pour les soins. Donc, il y a aussi, ce que j'ai pas mentionné, il y a les huiles essentielles qui rentrent là-dedans. Je suis distributrice d'huiles essentielles. Donc, j'ai déjà une petite clientèle et je les utilise sur moi-même, donc ça m'aide aussi. C'est ça. Je dirais que pour 2018, j'ai dit dans mon deuxième épisode, qui était aussi mon épisode du Nouvel An, j'ai dit que j'avais comme objectif d'aller vers mes rêves et d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter aussi mes autosabotages, qui est mon action actuelle avec ma dépendance au sucre, mais aussi j'ai plein d'autres autosabotages. J'aime beaucoup écouter des téléséries de science-fiction, si vous voulez en savoir plus sur moi. Et ben, ça fait en sorte que parfois je peux en écouter beaucoup. Je peux passer ma journée à en écouter. Et comme je suis à la maison, bon, j'ai pris. Pendant l'automne, j'ai vraiment fait un arrêt de travail, donc j'ai arrêté presque toutes mes activités dans le but de me ressourcer, de m'apaiser parce que je faisais des crises d'anxiété à tous les jours. Et je me sentais paralysée. Et puis, j'ai vraiment pris le temps. Je voulais vraiment ressentir l'envie de faire quelque chose avant de passer à l'action. Et bon, avec la fin d'année, ça nous brasse toujours un peu. On se dit, j'aimerais quand même que ma nouvelle année soit différente. Et bon, j'ai eu la chance d'aller terminer 2017 et commencer 2018 avec un ami très important pour moi à Trois-Rivières. Donc, ça m'a permis de faire une espèce de, vraiment un reset, comme on dit, donc de recommencer et de voir où allaient être mes priorités et où j'allais mettre mon focus pour 2018. Donc, plutôt que d'avoir peur, et j'en ai discuté beaucoup avec mon ami, j'en ai discuté avec d'autres personnes aussi autour de la nouvelle année, c'est que ça fait des années que je rêve de ça. Oui, je rêve de faire mon revenu avec ce que j'aime vraiment, et ça donne que ce que j'aime vraiment est vraiment pas commun. Donc, dans le descriptif de mon podcast, je parle de quête spirituelle. Ben oui, mon rêve, c'est d'écrire des livres puis c'est de faire des conférences. Je l'avais pas dit avant. J'ai commencé à le dire à certaines personnes à l'automne 2016. J'ai commencé à le dire un petit peu plus à partir de cet été. Et maintenant, quand je parle aux gens, je leur dis « Sais-tu ce que j'aimerais vraiment faire dans la vie? J'aimerais écrire des livres et faire des conférences. » Et c'est pour ça que ce podcast-là a du sens pour moi, parce que c'est l'expression. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, je sais pas. J'aimerais que ça arrive. J'aimerais vraiment beaucoup que ça arrive. Et en fait, ce que je veux, c'est que ça soit plus un rêve. Je veux sentir que je mets ce qu'il faut dedans ce rêve-là, pour peut-être pas nécessairement atteindre l'image que j'ai dans ma tête, ce qui est possible, j'y crois. Mais ça veut pas dire que ça va arriver. Donc peut-être pas nécessairement me rendre là, mais au moins savoir que j'ai fait tout ce que je peux. Donc jusqu'à maintenant, c'était resté un rêve que je soignais, que parfois je détruisais. Donc, je passais mon temps à le voir et à le détruire, et à le voir et à le détruire. Et c'est ça aussi, les autosabotages et le manque de confiance en soi. Mais c'est drôle parce que quand j'étais... Bon, je vais essayer de faire une histoire courte, mais quand j'étais adolescente et à l'école primaire aussi, pour moi, c'était tellement clair que ce qui était le plus important dans la vie, c'était la réalisation de soi, l'accomplissement de soi. Et c'était non négociable. Donc, quelqu'un qui me disait... Si par exemple un adulte me disait « Oh non, mais tu vas voir un jour, tu pourras pas faire tout ce que t'aimes. Tu vas être obligé d'aller trouver un travail qui va pas nécessairement te plaire pour pouvoir payer tes affaires. » Et ça me faisait capoter. Et non seulement je comprenais pas comment les adultes pouvaient faire ça, je voyais aucune logique là-dedans, parce que je me disais « Ouais, mais on a une vie. On peut pas juste se mettre en attente. » Et c'est tellement fort chez moi que si j'essaie de juste me trouver un travail de façon rationnelle, qui va pas nécessairement aller chercher ma flamme, mon feu sacré, disons, ben c'est pas long. Avant, ça pouvait durer quelques mois avant que je fasse un burn-out ou une dépression. Maintenant, ça peut durer quelques semaines. J'ai fini par me dire, c'est peut-être l'indice que, écoute, j'ai rien à perdre. Comme pour l'instant, je suis encore en arrêt de travail, bon, j'ai ma petite entreprise d'huile essentielle et de couture, mais c'est vraiment, j'ai vraiment ralenti mes activités. Dans ma discussion avec mon amie pour le nouvel an, je disais en fait que j'avais pensé faire un retour aux études en psychologie, et que à l'intérieur de moi, j'avais une ambivalence entre l'idée de cette réussite-là, donc l'idée que je pouvais écrire des livres réellement, que je pouvais être édité, que ça pouvait être apprécié, que je pouvais en vendre assez pour en faire quand même un certain revenu, et qu'un jour, oui, je pouvais m'adonner à donner des conférences si c'est des livres qui portent sur le développement personnel. Donc... Et je disais ça à mon ami, il m'a dit « Oui, c'est possible, mais peut-être ça va arriver juste dans 5 ou dans 10 ans. Et en attendant, il faut que tu fasses quelque chose, il faut quand même que tu aies un revenu, il faut quand même que tu te démerdes un peu plus. » Et il m'a dit « Si tu étais vraiment, vraiment assidu, je te dirais « Ok. » Si à tous les jours, tu t'assoyais puis t'écrivais, je te dirais « Ok, c'est bon. » Alors, je me suis dit, avant de mettre ça de côté et de me dire « Bon, mais je vais aller aux études, je vais passer... » la plupart de mon temps à étudier, à faire des travaux, à m'occuper de mon fils, et je vais être vraiment comme probablement serrée dans le temps, il va falloir que je travaille à travers de ça. Avant d'arriver à ce rythme de vie qui serait assez fou, pour moi, par rapport à ce que je vis présentement, qui est très très doux et calme, je vais m'offrir une année. Donc, 2018, qui est une année 11 en numérologie, qui est l'année, comme je disais un peu, c'est un peu comme l'année du paradis sur Terre, c'est une année où on peut souhaiter vraiment vivre quelque chose d'extraordinaire, ben je me suis dit « Ok, je vais me donner cette année-là pour être disciplinée. » Donc, à chaque semaine, je vais me fixer des objectifs qui vont être liés à mes objectifs mensuels et qui, eux, sont liés à mon grand objectif pour l'année. Donc, je dis pas qu'à la fin de l'année 2018, je vais être rendue riche. Je crois que ça arrive à certaines personnes, rapidement, de réussir. Mais je veux au moins sentir que j'ai vraiment avancé, que j'ai fait des choses qui étaient logiques, qui était rationnel et qui allait dans le sens de ce que je souhaite faire. Donc oui, je dis, j'aimerais écrire des livres. J'ai aussi une formation de documentariste, comme j'ai dit. Ça fait des années que j'ai envie de refaire un documentaire qui serait subventionné. Et à chaque fois quand j'y pense, là, je finis par éteindre l'idée dans mon cerveau en me disant, oh mon Dieu, il faut que je remplisse des dossiers. Oh mon Dieu, non, mais je ne serai pas accepté. De toute façon, je vais perdre mon temps. Ça va me prendre des dizaines d'heures faire ça, monter mon dossier. Puis finalement, personne ne va m'accepter. Puis je vais avoir vraiment de la peine. Puis là, mon idée va être démolie. Donc, plus jamais, je vais penser à faire un documentaire. Ça, c'est des beaux petits scénarios catastrophes. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez ça dans votre tête, vous n'êtes vraiment pas tout seul. On est plein à penser comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant dans le sens avec ça, c'est que j'écris. J'écris à tous les jours maintenant. Pas nécessairement mon idée de livre. Parfois j'écris là-dessus, parfois non. Mais juste de garder l'habitude d'écrire à tous les jours et ça m'aide, ça aide mon cerveau à penser plus en fonction des mots aussi, puis ça améliore mon vocabulaire aussi. Le podcast, c'est quelque chose que je vais faire à toutes les semaines. Donc c'est très important pour moi et ça va exactement dans le sens de ce rêve-là. Alors c'est ça, c'est mon garde-robe qui s'ouvre maintenant complètement. Je rêve de vivre de cette passion-là. Donc peut-être oui, en écrivant des livres sur le sujet, en faisant des conférences avec mon podcast et aussi juste avec une entreprise de développement personnel. Donc faire de l'accompagnement, faire du coaching, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis 2 ans et plus, mais ça fait 2 ans que j'en parle plus. Les soins de Reiki, donc je me dis que, et les huiles essentielles, que j'allais oublier, je me dis qu'avec tout ça ensemble, c'est vraiment possible quand même de faire un revenu qui me permettrait de vivre. Et qui va peut-être grossir, qui va prendre de l'expansion avec le temps, mais c'est quand même possible. Donc, je vais vous en reparler et je vais vous parler aussi de l'évolution que ça prend. C'est ça, au fil de l'année. Puis c'est aussi une façon pour moi de ne pas abandonner. Parce que, comme je vous ai dit, je suis bonne pour fuir et pour aller me cacher et pour manger mes émotions. Donc là, on essaie d'arrêter ça. Alors, on approche déjà de la fin et en guise de troisième partie, je vais vous parler d'une lecture que j'ai commencée et qui déjà m'ébranle et m'inspire beaucoup. Donc, on y va. Pour commencer donc, le premier livre qui est celui qui m'inspire le plus en ce moment est de Greg Braden. Donc, je viens de découvrir cet auteur. Pour moi, c'est un livre que j'ai découvert sur Amazon par une suggestion avec d'autres livres que j'avais choisis qui étaient du même genre. C'est un livre qui date de 2006 et j'ai découvert que l'auteur a une vingtaine de livres d'écrits qui ont l'air pas mal extraordinaires. Donc, probablement que vous avez déjà vu un peu passer ces livres et je vais vous donner le titre en français puisque le livre a été traduit. Secret de l'art perdu de la prière. Et c'est secret au pluriel. Donc, en fait, en sous-titre, on écrit « Le pouvoir caché de la beauté, de la bénédiction, de la sagesse et de la souffrance ». Donc, moi, je le lis en anglais. Pour ceux qui préfèrent le lire dans la langue d'origine, le titre, c'est « Secrets of the Lost Mode of Prayer ». Donc, je vais vous lire quelques extraits qui m'ont marqué et qui vont vous permettre de vous figurer un petit peu à quoi le livre ressemble. « La sagesse et la souffrance » sont deux extrêmes de la même expérience. Elles sont le commencement et la fin d'un même cycle. La souffrance est notre sentiment initial, notre réaction instinctive à la perte, la déception ou à une nouvelle qui nous émeut et nous bouleverse. La sagesse est l'expression de rémission de notre douleur. Lorsque nous découvrons de nouvelles significations aux expériences douloureuses, nous transformons notre douleur en sagesse. La bénédiction, la beauté et la prière sont les outils de notre changement. Donc, je parlais de gratitude dans mon deuxième épisode avec le Nouvel An. Je parlais du fait de faire un journal de gratitude. Et ce livre-là, selon ce que j'en comprends, puisque je suis au tout début, c'est encore l'introduction, c'est vraiment un livre qui va nous permettre de comprendre pourquoi ça a un impact d'être dans la gratitude et comment on peut y arriver. Comment on peut vraiment se centrer sur cette émotion-là. Et avec mon défi sans sucre, en fait, c'est ce que je découvre, c'est que il faut remplacer ça par quelque chose. Et la seule émotion que je vois qu'on peut mettre à la place d'un vide, ben, c'est quelque chose de bien plein, qui est la gratitude. Parce que la gratitude, c'est d'avoir le cœur tout chaud, tout reconnaissant. C'est d'être dans une espèce d'extase qui est un peu, parfois, qui peut paraître déconnectée. Mais ça remplit le trou et c'est pas déconnecté du tout parce que ça permet de voir tout ce qu'il y a de beau dans une journée. Donc, de s'accrocher à ce qui est le plus important et d'avancer à partir de là. Donc, c'est beaucoup de ça dont le livre va parler. Et vous verriez, Je le lis sur Kindle d'Amazon. Vous verriez, c'est tout annoté mon truc. C'est le fun parce que maintenant, on peut quand même surligner sur une tablette. Donc, je vais vous lire le deuxième extrait que j'aime beaucoup. Le mot bénédiction est le secret ancien qui nous soulage de la blessure de la vie assez longtemps pour la remplacer par un autre sentiment. Quand nous bénissons les gens ou les choses qui nous ont blessés, nous suspendons temporairement le cycle de la douleur. Que cette suspension dure une nanoseconde ou une journée entière ne fait pas de différence. Quel que soit le laps de temps, durant la bénédiction, une porte s'ouvre pour que nous commencions notre guérison et continuions notre vie. Ce qui est essentiel est que pendant un certain temps, nous sommes libérés de notre douleur, pendant une période assez longue pour permettre à quelque chose d'autre d'entrer dans notre cœur et dans notre esprit. Ce quelque chose est le pouvoir de la beauté. La beauté est ce qui transforme. Les traditions les plus anciennes et les plus sacrées nous rappellent qu'il y a de la beauté dans toutes choses, indépendamment de notre façon de les interpréter dans notre vie quotidienne. La beauté est déjà créée, elle est toujours présente, alors que nous pouvons modifier ce qui nous entoure, créer de nouvelles relations et nous déplacer vers un nouveau lieu pour plaire à nos idées toujours changeantes, déséquilibre et harmonie. Les composantes de base qui habitent une telle beauté sont déjà présentes. Au-delà de la gratitude pour ce qui est simplement agréable à nos yeux, les traditions de sagesse décrivent la beauté comme une expérience qui touche aussi notre cœur, notre esprit et notre âme. Par notre habilité à percevoir la beauté dans les plus misérables moments de la vie, nous pouvons nous élever assez longtemps pour donner une nouvelle signification à notre souffrance. Ainsi, la beauté est un déclencheur qui nous lance dans une nouvelle perspective. Mais la clé, c'est que cette beauté semble endormie jusqu'à ce que nous lui portions attention. La beauté ne s'éveille que lorsque nous l'invitons dans notre vie. Donc, c'était un extrait de ce livre qui s'appelle encore « Secret de l'art perdu de la prière » de Greg Braden. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça me rappelle un livre qui m'a énormément marqué, que j'ai lu en 2009 et qui a été un grand facteur de changement pour moi qui m'a permis de dépasser des limites et d'être beaucoup plus positive dans la vie, de voir les choses avec plus de perspective et de lâcher un peu l'espèce de stagnation dans laquelle j'étais, où j'étais assez triste en fait. Ça découle de ma dépression de mes 18 ans puisque je venais tout juste d'avoir 19 ans. Et c'est ça, ce livre-là s'appelle « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck. Et il parle beaucoup des rapports humains, du fait de changer de perspective justement, de comprendre les dépendances, que je fais ça rapidement de mémoire. Mais en fait, il a d'abord écrit ce livre-là, qui a été très populaire. Il y a eu une réédition, et dans la réédition, il a ajouté un chapitre qui parle de la grâce. Donc, il dit à la fin de son livre, à la base, que c'est pas quelqu'un de croyant. Puis, dans la réédition, il nous dit, ben, je commence à douter, je commence à me dire que, en fait, il commence à croire. Et il parle de la grâce. Donc, il dit que la façon d'atteindre le bonheur, la joie, l'harmonie, c'est par la grâce. C'est en reconnaissant toute la grâce qu'il y a autour de nous. Donc, ça passe par la beauté, ça passe par la gratitude. C'est d'avoir toujours les yeux ouverts à toute cette beauté, toute cette harmonie. Et nécessairement, en voyant la grâce, ben, on finit par la devenir d'une certaine façon. Donc, ce livre-là j'avais trouvé ça tellement beau et tellement vrai en même temps, et je l'expérimentais beaucoup à cette période-là. Donc, de revenir à ça avec un autre livre, puisque ça fait des années que je me dis, je dois relire Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck, je vais le relire certainement. Mais ce livre-là me fait vraiment triper, puisque en fait, on parle de la prière, pas de la façon qu'on connaît où on va s'asseoir et parler. On parle de la prière comme d'une intention, comme d'une émotion. Et ça rejoint en fait l'idée de la loi de l'attraction où on dit, ben si tu veux attirer à toi quelque chose, tu dois te sentir comme si tu l'avais déjà. Alors tu vas atteindre la vibration de cette chose-là, donc tu vas nécessairement être au même niveau, donc tu vas la trouver rapidement. Ce concept-là, on en entend parler de plus en plus depuis que le livre et le film Le Secret sont sortis, qui portaient essentiellement là-dessus, et où on disait par exemple, fais-toi un chèque de 1 000 $, 10 000 $, 1 000 000 et tu vas l'avoir, juste à croire que tu l'as déjà. Donc ça, c'est un petit cliché qui est probablement resté dans la mémoire de tout le monde. Le secret est sorti, c'est ça, autour des milieux des années 2000, je sais plus exactement, pour le film en tout cas. Ben c'est ça. C'est un concept que je connais depuis ce temps-là, qui m'intéresse, mais en même temps que j'ai du mal à saisir. Puis c'est dur de dire bon, disons là, moi je suis monoparentale, mais il y a des bouts où je suis vraiment écœurée d'être monoparentale et je rêve d'avoir un vrai compagnon de vie, tu sais. Ben c'est dur d'agir comme si je l'avais déjà, tu sais. Mais je pense que ce livre-là, par le chemin qu'il prend et la façon qu'il est fait, il va comme nous aider en douceur à se rapprocher de ça, puis à juste vivre dans une vie qui est plus en paix. Juste la paix intérieure, là, ça fait déjà un gros, gros, gros changement. Et ça va nous permettre d'avancer vers ce qu'on souhaite vraiment. Donc, c'est ça, c'est le livre que j'aime beaucoup pour le moment. Donc, c'est ce dont je voulais vous parler. Et bien, dans le fond, je vais terminer l'épisode comme ça. Je vais vous parler de d'autres lectures dans le futur, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui me passionne et que je fais à longueur de semaine. Et dans le prochain épisode, on va parler surtout d'aromathérapie. Donc, on va parler de l'utilisation des huiles essentielles, puisque c'est un travail que je fais, de conseiller les gens et de les tester moi-même. Donc, on va se pencher là-dessus pour le prochain épisode qui va être le quatrième épisode. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et une dernière chose que je veux vous dire, comme j'ai parlé de numérologie dans le deuxième épisode, en fait, j'ai décidé d'offrir aux 5 premières personnes qui vont m'écrire à la suite de cet épisode-ci votre charte de numérologie gratuitement. Donc, moi, ça me permet de m'exercer, ça me permet d'avoir un retour aussi des gens, donc de pas juste faire ça pour ma famille et ça les intéresse pas nécessairement, donc je cherche des gens qui veulent connaître leur numérologie et qui veulent en retour me donner leur avis. Donc, ça peut être anonyme, mais c'est très possible que je l'utilise pour mon site internet par la suite pour offrir un service de numérologie. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est ça. C'est moi, je vais vous faire votre charte à partir des données que vous allez me donner. Et à la suite, ça va être juste de me donner votre avis, prendre le temps de bien lire ça et de me donner juste votre feeling. Est-ce que vous pensez que ça fait du sens? Est-ce que vous trouvez que ça vous aide? Donc, les 5 premières personnes qui vont m'écrire à la suite de l'écoute de ce podcast vont avoir une charte de numérologie gratuitement. Et je dois dire que ça vaut autour de 100 $, là. Il y a des numérologistes qui vont charger un petit peu moins, un petit peu plus. Donc, c'est un beau cadeau et ça vous évite d'avoir à comprendre comment calculer tout ça. Et pour me contacter, c'est très simple. Vous pouvez trouver tout simplement Amy Gale. Donc, ça s'écrit Emie, trait d'union, Gail, sur Facebook. Donc, c'est ma page professionnelle. J'ai même pas mon nom de famille, c'est juste Amy Gale, très simple à trouver. Sinon, vous pouvez aussi m'écrire sur ma page personnelle, c'est comme vous voulez. Alors, écrivez-moi là et je vais mettre les détails dans le fond de mon site internet, c'est ethicaveridis.ca. Donc, Ethicaveridis. Ethicaveridis.ca. Et j'ai un onglet podcast où j'ai la description de mes épisodes avec les notes de lecture. Dans le fond, je vais vous mettre l'auteur, le nom du livre pour les gens qui n'ont pas nécessairement noté pendant l'écoute. C'est là qu'on trouve le plus de renseignements sur chacun des épisodes. Et ben là, je vous laisse pour vrai. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie énormément d'avoir écouté. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage à aller donner votre avis sur iTunes et à partager avec des gens que vous connaissez qui pourraient apprécier. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Au revoir.